France Info.
Et l'invité de France Info jusqu'à 9h, c'est l'homme qui est chargé de négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, l'homme qui négocie le Brexit. Renaud Dely est à mes côtés pour l'interroger.
Bonjour Michel Barnier.
Bonjour, et bonjour aux auditeurs de France Info.
Alors la date fatidique du Brexit, a priori, c'est le 29 mars, et dans à peine un mois. Nous sommes à un mois de l'échéance, et pour l'instant, Theresa May ne parvient pas à faire valider par la Chambre des communes, par le Parlement britannique, l'accord qu'elle a négocié avec vous, Michel Barnier. La perspective la plus probable est donc celle, à l'heure qu'il est, d'un Brexit sans accord, le fameux no deal. Quelles seraient les conséquences au lendemain du 29 mars d'un Brexit sans accord pour les citoyens, et d'abord pour les citoyens français, par exemple, qui veulent se rendre au Royaume-Uni?
Avant de répondre précisément à cette question, je veux dire deux choses. La première, c'est que la date du 29 mars est une date choisie par les Anglais. En déclenchant la négociation il y a deux ans, en mars 2017, ils ont eux-mêmes choisi la date de leur sortie, le 30 mars 2019, deux ans après. Deuxième point, il n'est pas exact de dire que le plus probable, c'est le no deal. C'est une possibilité, ce n'est pas encore une probabilité, et je fais tout, comme négociateur de l'Union européenne, avec mes équipes, avec le soutien des 27 chefs d'État, du Parlement européen, du président des institutions, Donald Tusk et Jean-Claude Juncker, je fais tout pour précisément aboutir à un deal et que l'accord que j'ai négocié en leur nom, au nom de l'Union avec Theresa May, pas contre elle, avec elle, soit approuvé par la Chambre des communes. Et je pense,
il y a encore un espoir, Michel Barnier.
Je pense qu'il reste une vraie possibilité. Nous travaillons actuellement, hier encore, avec les négociateurs au plan technique. Je retrouverai Steve Barclay et la tournée générale Jeffrey Cox la semaine prochaine. Je les ai vus deux fois depuis 10 jours. J'ai revu Theresa May, elle a rencontré Jean-Claude Juncker encore il y a 2 jours. Nous travaillons avec les Britanniques pour précisément apporter au Parlement britannique les assurances qu'ils souhaitent pour, c'est une question qui est très spécifique mais qui est très grave, qui est celle de l'Irlande, démontrer qu'on ne veut pas maintenir ce fameux backstop, cette assurance en Irlande éternellement. Mais nous avons besoin de cette assurance. Je reviendrai sur cette question si vous le souhaitez. Donc je réponds maintenant à votre question.
Si vous y travaillez donc à la perspective d'un accord toujours jusqu'au 29 mars, c'est donc que les conséquences d'un Brexit sans accord, sans deal, seraient catastrophiques.
Excusez-moi de vous rappeler que, en toute hypothèse, le Brexit a des conséquences. Et je l'ai dit le premier jour de ma nomination, les conséquences sont innombrables. Humaines, sociales pour les citoyens, économiques et financières, techniques et juridiques. Elles sont innombrables et souvent elles ont été sous-estimées, notamment du côté britannique. C'est précisément parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de problèmes qu'on a fait ce traité, que j'ai ici.
Vous êtes venu avec 600 pages, c'est avec. Ça
je vous le laisserai comme un cadeau pour votre lecture le week-end prochain. C'est 600 pages qui, dans des centaines de sujets, apporte des réponses juridiques ou des garanties là où le Brexit crée, comme tout divorce, des incertitudes.
Quelle est la probabilité, Michel Barnier, que le document que vous avez sous les yeux, ce bottin de 600 pages négocié depuis des mois avec le Royaume-Uni, entre en application? Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'on peut encore sauver cet accord?
Oui, je pense qu'on peut sauver cet accord et que les Britanniques l'approuveront, mais c'est maintenant à eux de prendre leurs responsabilités.
Ce qui est écrit là-dedans, vous ne le changerez plus.
C'est au gouvernement britannique, aux parlementaires britanniques, d'assumer les conséquences des décisions qu'ils ont prises et que nous regrettons, parce que j'aurais pu le dire dès le début. Moi, je regrette, comme tout le monde, le Brexit. Je n'y vois aucune valeur ajoutée. Le Brexit, c'est lose-lose. C'est une négociation négative que j'ai eu l'honneur de conduire. Malheureusement, mais nous prenons acte de la
volonté britannique. Mais ce document, désormais, il est immuable. Theresa May vous demande de lâcher des choses. L'Union européenne ne lâchera rien.
Il n'y a rien à lâcher sur la réalité de ce que nous sommes. Ce n'est pas parce que les Britanniques quittent l'Union européenne qu'on va fragiliser ce que nous sommes, les fondations de ce que nous sommes. En ce sens, la négociation n'est pas une négociation habituelle. Il n'y a pas du bargaining, ce n'est pas du commerce. Nous sommes l'Union européenne, c'est les Britanniques qui quitte l'Union européenne, ce n'est pas nous qui quittons le Royaume-Uni, et donc on ne va pas changer les fondations. C'est-à-dire ce qui fait, vis-à-vis du président Trump ou des Chinois, notre principale force, c'est la réalité, l'intégrité du marché unique.
On entend, Michel Barnier, que cet accord que vous avez négocié pendant des mois, il n'est pas négociable, c'est ce que vous nous dites.
Il y a des choses qui peuvent être améliorées à côté de ce traité, notamment, ce qui est le plus important, c'est pas le divorce que nous avons organisé de manière ordonnée. C'est ce qu'on va faire avec les Britanniques pour les décennies qui viennent. Quelle est la future relation? Quel est le partenariat?
Il y a des points qui sont encore négociables. La frontière irlandaise en fait partie.
Non, excusez-moi. La frontière irlandaise est traitée dans ce dossier, dans ce traité qui n'est pas négociable, qui ne peut pas être réouvert. En revanche, à côté de ce document, de ce traité, nous avons un autre document qui est une déclaration politique assez précise, qui fixe les règles du jeu, le cadre de notre future relation. Et c'est ça le plus important. Quel partenariat nous voulons pour le commerce, pour la pêche, pour le transport, pour la coopération des universités, la recherche Erasmus en matière de sécurité intérieure, pour coopération policière et judiciaire, en matière de politique étrangère et de défense. Voilà tous les sujets que j'ai couverts dans cette déclaration. Ça peut être amélioré. Et je veux dire précisément que si les Britanniques souhaitent demain matin être plus ambitieux, par exemple ne pas se contenter d'un accord de libre-échange avec nous, comme nous le proposons ensemble, mais d'avoir une union douanière. Peut-être même plus que ça, nous sommes prêts à améliorer cette relation.
Pas de renégociation globale, c'est ce que vous nous dites, Michel Barnier. Est-ce qu'il peut y avoir un report au-delà du 29 mars? Est-ce qu'on peut se laisser un peu de temps pour trouver une solution?
Mais la question, j'entends parler beaucoup de ce report, Theresa May l'a évoqué elle-même.
Elle a entrouvert la porte hier pour la première fois, Theresa May.
Nous connaissons cette question. C'est elle qui a choisi la date du 30 mars pour sortir. Si le Royaume-Uni demande une prolongation, d'abord, il faut qu'elle le demande. Ensuite, il faut que les 27 chefs d'État et de gouvernement en décident à l'unanimité. Et la question qu'ils poseront immédiatement, c'est pourquoi faire ? Et c'est ça qui dépendra, qui fera déterminer la durée d'une éventuellement prolongation. Pourquoi faire ? Et la question, c'est est-ce que, durant cette prolongation, on est sûr de ne pas se retrouver dans 3 mois, par exemple, dans la même situation d'impasse qu'aujourd'hui. C'est ça la question
que pose. Cette prolongation, elle ne pourrait pas excéder le mois de juin, comme l'a dit Theresa May.
Je ne peux pas préjuger. La question n'est pas posée. Elle n'a pas étudié. Il n'y a pas eu de discussion sur cette question. Je sais que les dirigeants européens que je rencontre, toutes les semaines, je rencontre un Premier ministre ou le président de la République française quand il me reçoit. C'est pourquoi faire? À quoi sert? Nous n'avons pas besoin, objectivement, j'ai négocié cette affaire depuis 1 an et demi, 18 mois maintenant, on n'a pas besoin de beaucoup plus de temps, on a besoin de décisions. On a besoin que le Parlement britannique prenne ses responsabilités et que ceux qui veulent le Brexit, qui ont choisi de quitter l'Union européenne, assument. Et s'ils veulent vraiment quitter l'Union européenne de manière ordonnée, alors c'est ce traité, c'est pas un autre. Donc on peut donner des explications, on peut améliorer la relation future autant que les Britanniques le voudront, mais ce traité, c'est la base d'une sortie ordonnée. Sinon, je reviens avec toute première question, ce sera une sortie désordonnée, donc avec des conséquences plus sérieuses.
Et on va en reparler de cette hypothèse du no deal, c'est-à-dire d'une sortie du Royaume-Uni sans accord conclu avec les 27.
Mon choix.
Oui, on a entendu, on l'a bien compris.
Ce n'est pas ma ligne. Ma ligne est de... Vous n'avez pas besoin d'un négociateur pour faire un no deal.
Oui. On a bien compris que votre souhait, c'était de parvenir à un accord, et si possible, avant le 29 mars, mais ça on va en reparler, si vous le voulez bien. Michel Barnier, il est 8h40, David Dauba pour l'essentiel de l'actu.
Air France KLM doit être gérée sans interférence étatique nationale. C'est Bruno Le Maire qui l'affirme, déclaration qui intervient alors que l'État néerlandais fait une irruption pour le moins surprise. D'ailleurs, au capital du groupe, il prend une participation directe de 12,6% pour mémoire, celle de la France est de 14,3%. Alors certes, il n'est plus aussi historique que le premier, mais il reste tout de même extrêmement attendu. Nouveau face-à-face, ce sera entre Kim Jong-un et Donald Trump, enfin normalement. Les deux hommes se retrouvent aux alentours de midi à Hanoï. La situation devrait s'améliorer demain. En attendant, pour lutter contre une pollution aux particules fines, la circulation différenciée a été décrétée en Ile-de-France. 70 communes concernées à peu près, seuls les véhicules équipés de vignettes critères de 0 à 3 sont autorisés à circuler. Situation identique pour la toute première fois d'ailleurs dans la métropole. Lilloise. Et puis on a appris ce matin que de son côté, la préfecture de Seine-Maritime avait décidé de baisser de 20 km/h la vitesse sur certaines routes. Et puis plus de doute possible, aucun écosystème marin n'est épargné par la pollution au plastique. Des chercheurs ont découvert en effet pour la première fois des microplastiques dans les entrailles de tout petits crustacés vivant à près de 11 km de profondeur. 250 000 tonnes de plastique flottent actuellement à la surface des océans.
France Info. C'est le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, qui est l'invité ce matin de France Info avec Renaud Dely.
Michel Barnier, vous disiez à l'instant que la perspective d'un no deal n'était évidemment pas votre perspective, que vous allez vous battre jusqu'au bout pour qu'il y ait un accord. Il n'empêche qu'à l'heure qu'il est, il n'y a pas d'accord validé par le Parlement britannique. Hier, à votre place, ici même, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, expliquait que le gouvernement français avait pris toutes les dispositions en cas de no deal dans un mois.
Nous avons pris les mesures en France
En cas de Brexit, comme on dit, sans accord, avec un no deal, différentes ordonnances ont été prises depuis maintenant de nombreuses semaines en Conseil des ministres. L'ensemble des dispositions pour faire en sorte que le lendemain du Brexit, eh bien, les entreprises françaises, les salariés, les Français qui vivent en Grande-Bretagne, les Britanniques qui vivent en France, nos entreprises qui commercent avec la Grande-Bretagne, puissent poursuivre leur activité dans les meilleures conditions.
Quelles seraient les conséquences d'un no deal pour les citoyens et pour les entreprises françaises ?
Alors, le no deal, ce n'est pas mon option, mais c'est un risque qui s'aggrave au fur et à mesure que les jours passent et qui nous rapproche du 30 mars, la date choisie par les Britanniques pour sortir, alors qu'ils ne sont pas en mesure d'approuver l'accord négocié. Je veux dire, comme le rappelait Benjamin Griveaux, et j'en ai parlé avec le président Macron, avec le Premier ministre Édouard Philippe, récemment encore avec M. Darmanin, que le gouvernement français a pris beaucoup de mesures concrètes, précises, pour se préparer. Il n'est pas le seul, le gouvernement irlandais. Le gouvernement néerlandais a créé 700 postes de douaniers. Le gouvernement belge a créé 400 postes de douaniers. Donc tout le monde se prépare à cette hypothèse que personne ne souhaite, mais l'Union européenne sera prête. Alors il y aura des mesures, comme on le dit en anglais, de contingency, des mesures d'urgence qui seront prises unilatéralement par nous, les Européens, comme les Britanniques se préparent à en prendre, c'est leur problème. Il n'y aura pas d'accord entre nous. Nous allons prendre des mesures, par exemple, sur la question des visas. Le Royaume-Uni sera mis sur la liste des pays pour lesquels on n'a pas besoin de visa quand on veut entrer, on a besoin d'un passeport.
Et il faudra il n'y aura pas besoin de visa.
Il faudra que les Britanniques prennent une mesure réciproque. Nous prenons des mesures pour le contrôle. J'entendais ce matin le patron du port de Calais expliquer que pour les marchandises qui vont entrer dans l'Union européenne, il y aura des contrôles que nous ne faisons pas aujourd'hui. Et ça exige des infrastructures, des inspecteurs notamment, pour des questions qui ne sont pas théoriques. Ce sont des questions qui intéressent la vie quotidienne des Français et des Européens, la sécurité sanitaire, le contrôle des maladies animales, la qualité des produits, la lutte contre la contrefaçon. Voilà pourquoi, partout en Europe, à l'extérieur, aux frontières extérieures de l'Union européenne, que vous soyez en Finlande, en Grèce, au Portugal ou en France, toutes les frontières extérieures sont actuellement contrôlées pour des produits qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. Le Royaume-Uni choisissant d'être à l'extérieur, nous contrôlerons les produits pour vérifier la qualité, la sécurité alimentaire, vérifier les douanes, la question des taxes fiscales, ce sont nos budgets qui sont concernés, et la qualité des produits du point de vue des normes et des standards pour protéger les entreprises. Donc, protéger les consommateurs, protéger les budgets, protéger les entreprises, ça c'est une exigence que nous avons à toutes les frontières extérieures de l'Union européenne. C'est d'ailleurs le problème que nous devons régler en Irlande aussi.
Qui aurait le plus à y perdre à cette hypothèse du no deal, Michel Barnier, les Britanniques ou le reste de l'Europe ?
En toute hypothèse, le Brexit a de très graves conséquences. D'abord, me semble-t-il, pour le Royaume-Uni, aussi pour nous. Évidemment, les conséquences sont plus lourdes pour le Royaume-Uni qui s'isole, qui a choisi d'être solitaire plutôt que de rester solidaire. Nous restons avec le marché unique. Et je rappelle que 50, 60, parfois beaucoup plus de nos exportations nationales sont dirigées vers le marché unique et continueront de l'être. Ce grand marché de 500 millions, bientôt 460 ou 450 millions de citoyens consommateurs, qui est notre base économique et qui fait que les Américains d'un côté, les Chinois de l'autre sont obligés de nous respecter parce que quand ils nous parlent, ils parlent en matière de commerce, d'importation, d'exportation, ils parlent à un marché organisé, un écosystème organisé de 500 millions de consommateurs,
Renaud
de
22 millions d'entreprises. L'autre sortie de crise éventuelle, elle a été esquissée par un ensemble de responsables britanniques et d'abord maintenant par le Parti travailliste et son leader Jeremy Corbyn, ce serait d'appeler un second référendum au Royaume-Uni sur la question du Brexit.
Je ne sais pas ce que vous appelez une sortie de crise. La sortie de l'impasse où nous sommes, c'est que l'accord que j'ai négocié au nom de l'Union européenne soit approuvé par le Parlement britannique s'il souhaite toujours sortir de l'Union de manière ordonnée.
Je ne vais pas
faire de commentaires sur...
Faut-il faire revoter les Britanniques ?
Écoutez, ce n'est pas à moi comme négociateur européen de dire comment la vie politique britannique doit être organisée. Je la suis attentivement, je la suis avec attention, je la suis avec respect. Elle est assez stimulante, cette vie politique et vie parlementaire britannique.
Et
je n'ai pas à intervenir dans le débat pour ou contre un second référendum. Est-ce qu'il faut de nouvelles élections ? Ça, c'est l'affaire des Britanniques.
Rien ne l'interdit, en tout cas, un second référendum, Michel Barnier ? Dans les statuts, dans ce que disent les chefs d'État européens ?
Ce n'est pas à nous, du côté européen, de décider comment est approuvé dans un pays qui veut quitter l'Union européenne, comment est approuvée la loi ou le traité que nous avons négocié. Ça, c'est leur problème. La question, c'est quand est-ce que nous aurons une décision du côté britannique, alors que les Britanniques ont décidé il y a bientôt trois ans, en juin 2016, de quitter l'Union européenne. C'est une décision souveraine que nous avons regrettée, mais que nous respectons. Nous avons fait ce traité, ça a été notre travail pendant 18 mois. Je répète que ce qui est le plus important, c'est pas le divorce que nous avons organisé à travers ce traité. Ce qui est le plus important, c'est la future relation qui va exiger 2, 3 ou 4 années
pourquoi c'est
de
si
négociation.
Compliqué. Alors, c'est la faute à qui, vous dites? C'est la faute au Parti conservateur, à Theresa May, aux Brexiteurs?
Je ne veux pas porter de jugement. Ce que je constate simplement, c'est qu'il est temps que dans ce pays qui veut quitter l'Union européenne et qui doit assumer les conséquences de ces décisions, il y ait un dialogue, une coopération entre la majorité et l'opposition.
Vous avez évoqué il y a quelques minutes la question de la frontière nord-irlandaise, Michel Barnier, entre l'Irlande du Nord, qui va donc rester britannique après le 29 mars, enfin dans l'hypothèse où il y a un accord, et la République d'Irlande au sud, qui restera donc au sein de l'Europe. Il n'y aura pas de frontière physique, évidemment, entre ces deux Irlandes. Comment ça va se passer?
D'abord, l'histoire entre ces deux pays, le Royaume-Uni et l'Irlande, est une histoire lourde. Et récemment encore, il y a à peine 20 ou 25 ans, il y a eu un conflit tragique en Irlande du Nord entre unionistes et républicains, catholiques et protestants. Et au terme de ce conflit, ils ont signé courageusement et avec l'appui du Royaume-Uni, des Nations Unies, des Américains, de l'Europe, ce qu'on appelle le Good Friday Agreement. C'est un accord au terme duquel il n'y a plus de frontières du tout. Vous êtes dans ce studio, vous êtes d'un côté en République d'Irlande, de l'autre côté du studio, vous rentrez au Royaume-Uni. Et il y a aussi 140 coopérations que nous soutenons avec le budget européen. Et je vous prie de croire que c'est pas une question qui concerne les marchandises ou les douanes d'abord, c'est une question qui concerne
d'abord
les hommes
habitants,
et les femmes,
d'abord les Irlandais.
Les hommes
ouais.
et les femmes. Moi, j'étais dans une petite commune au sud de Derry, Londonderry, il y a quelques mois, et dans un groupe de femmes qui m'a reçu, qui travaillent ensemble de part et d'autre de la frontière, entre guillemets, j'ai vu des femmes pleurer dans ce groupe en me disant « Faites en sorte que ça ne recommence pas comme il y a 20 ans ».
Alors,
donc
comment
c'est ça
vous
dont
allez
il
faire
s'agit. Ouais. Or, il s'agit d'éviter une frontière dure pour préserver la paix et la stabilité. Il s'agit en même temps, et le gouvernement irlandais est solidaire de nous et nous sommes solidaires de lui, qu'il n'y ait pas de frontière, mais qu'il y ait aussi des contrôles.
Comment on fait ?
Parce que c'est précisément la question que nous devons traiter. Comment faire la série de contrôles dont je vous ai parlé il y a quelques minutes pour protéger les consommateurs de toute l'Union européenne ? Toute marchandise qui entrera après le Brexit en Irlande du Nord, venant du Royaume-Uni et d'un autre pays avec lequel le Royaume-Uni commercera, rentrera pas seulement en Irlande, rentrera en France, en Pologne ou en Belgique immédiatement.
Sur la paix, Michel Barnier, le retour d'une frontière en Irlande, c'est automatiquement la guerre, un risque de guerre.
Le retour d'une frontière dure, tous les acteurs irlandais, de quel côté qu'ils se soient, à quelque communauté qu'ils appartiennent, vous disent que c'est un risque à de nouveaux troubles et de nouvelles instabilités. Et nous ne pouvons pas prendre ce risque. Ni les Britanniques, qui sont d'accord avec nous, ni les Européens, et naturellement, ni le gouvernement de Dublin. Donc nous devons trouver le moyen de faire ces contrôles, je reviens, sans faire de frontières pour préserver la paix. Et donc, ce que nous avons dit avec les Britanniques, c'est que nous allions, immédiatement après la signature de ce traité, travailler à un accord particulier pour qu'il n'y ait pas de frontières. Soit dans le cadre d'une relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, soit dans le cadre d'un accord spécifique. Si nous n'y arrivons pas, nous avons ce qu'on appelle ce backstop, c'est une assurance. Le temps nécessaire, le Royaume-Uni restera membre de notre territoire douanier tout entier, tout le Royaume-Uni, pour qu'il y ait, on évite des contrôles douaniers. Et c'est ça qui pose le problème, alors même que c'est une idée proposée par le Royaume-Uni lui-même, par Theresa May elle-même, que j'ai reprise dans la négociation, d'avoir cet accord avec tout le Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, il refuse cette idée en nous disant que nous voulons les maintenir indéfiniment dans le même territoire douanier que l'Union européenne, ce qui n'est pas notre opinion, mais c'est là où se trouve le blocage, et c'est ce blocage qu'il faut surmonter.
Michel Barnier avec nous jusqu'à 9h, on s'interrompt une minute, le temps de jeter un œil et une oreille au titre de l'actualité de ce mercredi matin. Il est 8h51, c'est David Doba.
Quelques dizaines de milliers de voitures sont interdites de circulation à Paris aujourd'hui. C'est ce qu'estime sur France Info Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Tout ont un point commun, une vignette critère, 4 ou 5, il a raison évidemment, vous la connaissez. Une pollution en particules fines, situation identique également dans la métropole lilloise. Il passe ses premières heures derrière les barreaux. La justice australienne ordonne le placement en détention du cardinal Grégoire Peel après sa condamnation dans une affaire de pédophilie. La sentence de pourrait être connu d'ici 2 semaines. Maintenant, il risque jusqu'à 50 années de prison. Regain de tension ce matin entre le Pakistan et l'Inde. Les autorités pakistanaises affirment avoir abattu 2 avions indiens, des appareils qui se trouvaient, semble-t-il, dans leur espace aérien. Dijon n'a rien pu faire hier soir contre le PSG. Les Parisiens qualifiés désormais pour les demi-finales de la Coupe de France. Ils se sont imposés 3-0. À suivre aujourd'hui, tout d'abord à 17h30, Rennes-Orléans, puis à 20h, Lyon contre Caen. Et puis c'est lui qui remettra la palme d'or, Alejandro Iñárritu, président de la 72e édition du Festival de Cannes. On lui doit notamment Birdman, mais aussi des chefs-d'œuvre comme 21 grammes, Babel ou encore The Revenant avec Leonardo DiCaprio.
Toujours avec Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, et Renaud Dely.
Les élections européennes auront lieu le 26 mai. Michel Barnier, on voit les nationalistes progresser un petit peu partout en Europe. On l'a vu notamment en Italie avec Matteo Salvini et dans de nombreux autres pays. Est-ce que la majorité au Parlement européen peut basculer lors de ces élections européennes? Est-ce qu'il peut y avoir une majorité nationaliste?
Je ne le crois pas, et le pire n'est jamais sûr. Je vous observe d'ailleurs que ces nationalistes ou ces populistes qui exploite le sentiment populaire et qui exploite souvent les colères sociales. Et je reviendrai sur ce soin parce que il faut bien distinguer le populisme du sentiment populaire qu'il faut écouter. Vous les entendez beaucoup moins en France et en Italie ou ailleurs revendiquer la sortie de leur pays de l'Union européenne ou de la zone euro. Hein. Je dis cela en passant. Peut-être la négociation que nous conduisons, objectivement, sans esprit de punition, sans esprit de revanche, sur des bases claires et objectives, la sortie du Royaume-Uni explique aussi que il y a des différences quand on est dedans, quand on est dehors l'Union européenne. Ça, c'est peut-être.
Vous voulez dire que ce qui se passe en ce moment sur le Brexit a peut-être refroidi les ardeurs de Marine Le Pen, pour ne pas la citer.
J'entends beaucoup moins un certain nombre de responsables d'extrême droite ou d'extrême gauche, chez nous, en France et dans d'autres pays, revendiquer la sortie de leur pays, de l'Union européenne ou de la zone euro.
Voilà. Mais pourtant, ils progressent fortement. Ils devraient progresser fortement au Parlement européen à l'issue des élections
européennes.
Oui, encore
une fois.
Est-ce que c'est la sanction d'un échec de l'Union européenne?
C'est forcément une leçon qu'il faut tirer de la colère sociale, de la colère territoriale qui s'exprime un peu partout. Souvent orienté ou dirigé contre Bruxelles ou contre l'Europe, pas toujours à raison, contre les effets de la mondialisation. Je pense qu'il faut écouter cette colère. Elle s'est exprimée chez nous au début dans les manifestations des Gilets jaunes. Et je pense que les hommes politiques, le président Macron, je crois, est dans cet état d'esprit, dans chaque pays, au niveau européen, doivent écouter, comprendre et répondre. Il y a ce sentiment qui s'est exprimé au Royaume-Uni à travers le Brexit. C'est pas seulement les gens de la City ou des gens qui ont d'autres idées, c'est souvent une colère sociale. C'est le sentiment d'être abandonné, le sentiment de ne pas être protégé par l'Europe, le sentiment qu'on n'a pas de futur parce qu'il n'y a plus d'industrie. Il y a des responsabilités à Bruxelles depuis une trentaine d'années, notamment dans les excès de l'ultralibéralisme, dans une certaine naïveté en matière d'échanges commerciaux. Ce temps-là est fini et les leçons sont tirées. Il y a des réponses nationales. Personne n'a obligé la France à abandonner une partie de son industrie. L'Allemagne ne l'a pas abandonnée, les Pays-Bas non plus et l'Italie non plus. Il y a des réponses régionales sur les services publics, les dessertes ferroviaires, les services médicaux, des réponses locales avec les circuits courts en matière agricole ou la couverture par Internet des zones d'ombre. Donc, il faut répondre à ce sentiment d'exclusion pour retisser le lien.
Michel Barnier, vous voterez en France aux européennes?
Bien sûr, je vote en Savoie, dans ma région, là où se trouvent mes racines et mes fidélités.
Oui. Et pour votre famille politique, pour la liste de M. Bellamy?
Je voterai en fonction du... J'appartiens à ce mouvement. Ce qui m'importe, c'est que ce mouvement clarifie sa ligne, notamment sur des sujets fondamentaux comme la souveraineté européenne, qui est un enjeu majeur et qui ne remplace pas la souveraineté nationale, qui s'y ajoute.
C'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas clair la ligne.
Ce n'est pas clair aujourd'hui. J'attends qu'il clarifie la position de ce parti. Et pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que dans cette campagne européenne, on parle de l'Europe et de la France, davantage que de vouloir régler des comptes au niveau national. Ce qui m'intéresse, c'est que mon pays, comme il l'est aujourd'hui sous l'impulsion du président Macron, et je veux le dire parce que je le pense, reste un grand pays en tête du projet européen.
Vous pourriez voter pour la liste La République En Marche aux européennes,
Michel
Barnier?
Je ne vais pas vous dire aujourd'hui pour qui je vote.
Ah, vous nous dites le projet européen d'Emmanuel Macron est le bon. Il se trouve qu'il va présenter une liste. Je vous pose naturellement la question.
Ce qui m'intéresse, c'est que mon pays reste en tête du projet européen, de sa réforme et de son explication. Et je me prononcerai le moment venu quand je verrai. On n'est pas encore au moment de choisir les gens. On n'est même pas encore au moment de voir les programmes. Est-ce que vous avez vu des programmes européens?
Non.
Bon, donc j'attends et je me prendrai ce moment.
Mais vous n'excluez pas, pardon Renaud, vous n'excluez pas voter pour un autre candidat une autre liste que celle de votre camp.
Je reste dans ma famille qui est la famille du Parti Populaire Européen, originellement et fondamentalement le Parti Chrétien Démocrate, et qui est un des grands partis européen à Bruxelles et à Strasbourg. Ce que je veux rappeler aussi, c'est que ce parti a toujours travaillé avec les autres et que ça va être cette fois-ci une obligation que le centre-droit, le Parti Socialiste, les libéraux, la grande nouvelle famille centriste à laquelle appartiendra sans doute le Parti En Marche et sans doute aussi les Verts travaillent ensemble pour changer ce qui doit l'être et pour maintenir ce qui doit l'être au niveau européen.
Une autre échéance, Michel Barnier, après les élections, il va y avoir la succession de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne. Est-ce que le poste vous intéresse ?
Je suis aujourd'hui, et franchement, c'est une question de responsabilité, même une question d'honneur pour moi, totalement à 100% concentré sur ma tâche. Vous voyez bien qu'elle n'est pas finie, puisque nous ne savons pas l'issue de cette négociation. Et donc, chaque chose en son temps, je reste concentré sur la tâche qui m'a été confiée par les 27 chefs d'État, par le Parlement. Et franchement, c'est normal que j'assume cette tâche.
Merci à vous, Michel Barnier, négociateur sur le Brexit, invité ce matin de France Info, Radio et Télé Réunis, comme chaque matin.